Bon la mif, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on arrête les soirées discutons. Oui, je sais, mais en vrai, t'inquiète, on change juste le format. Et la bonne, c'est qu'à l'occasion, on a prévu une tournée d'au revoir pour vivre ça au moins une fois avec vous tous. Du coup, on débarque pépouze dans ta ville en juin pour les toutes dernières soirées discutons, qui sont comme d'hab composées en deux parties, un enregistrement de podcast en live et une session de deep dating. Donc on sera en petit comité à chaque fois pour pouvoir vraiment échanger tranquille et tu trouveras toutes les infos de la tournée sur Insta ou sur le site. Je te fais des bisous BG, je te souhaite une bonne écoute et dernier petit truc, n'hésite pas à noter le podcast si tu le kiffes, vraiment ça nous file un vrai coup de main. À plus. Eh bah salut, bienvenue.
Bah bienvenue à toi qui écoutes parce qu'en vrai je suis toute seule dans cet épisode. On teste un nouveau format sur Discutons. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de questions dans Discutons dont on parle, mais que vous aviez plein de questions à me poser aussi et que j'avais pas forcément le temps de rentrer dans les détails, dans les réponses, et que vos questions étaient hyper pertinentes et pourraient faire partie du jeu, littéralement. Donc, on s'est dit qu'on pourrait faire un format un peu spécial et que je sois solo pour répondre aux questions de la communauté. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment du test. On va voir ce que ça donne. Je suis un peu en mode freestyle. J'ai pris vos questions, j'ai fait une petite... boîte à questions sur Insta et j'ai pris des questions, donc je vais essayer de répondre et de rentrer dans les détails et peut-être avoir une approche un peu plus thérapeutique, vu qu'à la base, je suis quand même sexothérapeute. On va commencer. Donc, sachez que les questions ne sont pas issues du jeu. Là, vraiment, c'est vous qui avez posé ces questions-là. Donc, si jamais vous écoutez le podcast, mais que vous n'êtes pas sur Insta et que vous voulez poser vos questions, bah, rejoignez-nous sur Insta. Mais si jamais il y a des questions qui vous parlent de ouf et que vous pensez qu'elles méritent d'être dans le jeu, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message aussi. Parce que c'est aussi dans nos objectifs d'éventuellement sortir des extensions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des idées de questions. C'est aussi comme ça que le jeu s'améliore et qu'on peut parler au plus grand nombre de personnes. Ok, du coup, la première question que j'ai devant les yeux, c'est pourquoi c'est plus difficile de ken avec quelqu'un qu'on aime réellement ? C'est marrant comme question. Je pense que je l'ai choisie parce que je la comprends, cette question. Je pense qu'il y a des enjeux émotionnels qu'il y a quand on est amoureux ou amoureuse d'une personne, qu'il n'y a pas avec une personne qu'on ne connaît pas. Mais de la même manière qu'on s'est rendu compte avec Discutons que ça peut être plus facile de parler de sa sexualité avec des inconnus que d'avec la personne qu'on aime. Parce que je pense qu'on a plus peur de potentiellement ne pas plaire à la personne qu'on aime, de lui montrer des faces de soi dont on a honte. Peut-être qu'on est moins dans la performance quand on aime quelqu'un qu'on aime et qu'on a peur d'être jugé pour ça, en fait. Donc je pense qu'il y a juste... une vraie notion tout simplement de tu te mets vraiment à nu dans tous les sens du terme et le fait que la personne en face valide ou pas, ça va te faire plus mal que si c'était un ou une inconnue. C'est pas grave en soi que ce soit plus difficile. Il y a des personnes pour qui, au contraire, ça va être beaucoup plus simple de coucher avec une personne qu'on aime et avec qui on se sent en confiance. Moi, je trouve que c'est intéressant si on est dans cette situation-là de se dire, ok, enfin moi, j'ai appris plus, je pense, sur moi, mes limites, comment communiquer avec des personnes dont je n'étais pas amoureuse, parce que justement, je ressentais pas toute cette cet enjeu et toute cette timidité, toute cette vulnérabilité, en tout cas, que je pouvais ressentir avec quelqu'un. Je la ressens pas avec des inconnus, je suis un peu en mode... Enfin, des inconnus ou des gens dont je suis pas amoureuse, je suis un peu en mode, bah, c'est cool, on s'amuse, et puis ça se finit un jour ou un autre, on arrête, il y a pas de souci. Et du coup, c'est plus dans mes relations avec des gens dont j'étais pas amoureuse que j'ai appris finalement le plus de choses sur moi qu'après j'ai pu utiliser ou faire avec quelqu'un pour qui j'avais des sentiments. Je pense que c'est vraiment juste une histoire de la personne peut-être te voit toi réellement pour qui tu es et c'est toujours beaucoup plus difficile de montrer ça et on se met un peu dans une situation de vulnérabilité de se dire ok bah si ça tout ce que je te montre de moi tu n'aimes pas c'est un peu un rejet de sa personne donc ça peut faire un petit peu mal. Je pense que ouais, il y a un peu une histoire de validation tout simplement, que si une personne qu'on n'aime pas forcément n'aime pas quelque chose de nous ou ce qu'on fait, on s'en fout parce que en fait, bon bah si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Si c'est la personne qu'on aime, je pense que ça peut faire un peu mal. Pour revenir sur le concept, parce que j'ai dit validation, je pense que la validation des gens qu'on aime est importante. On est un peu dans un discours aujourd'hui de on a besoin de la validation de personne d'autre que soi. Moi, je suis persuadée que la validation, c'est quelque chose qui nous construit en tant que créature sociale et qu'on a besoin d'être validé par les autres pour savoir, on a besoin d'un reflet de qui on est pour savoir comment on se construit. Et du coup, c'est OK de chercher la validation de soi au travers des yeux de quelqu'un. Donc, si c'est le cas et que tu es amoureux d'une personne, amoureux ou amoureuse d'une personne et que tu es mal à l'aise par rapport à ça, C'est peut-être juste que voilà, t'as vraiment envie que cette personne de lui plaire et c'est ok. Donc tout ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est juste lui en parler, lui dire que voilà, avec elle ou lui, tu ressens beaucoup beaucoup de choses et que ça te fait peut-être un petit peu flipper et que ça te bloque sur certaines choses. Si la personne est dans le même état, bah peut-être que déjà ça va vous remettre sur un pied d'égalité, on va dire, et ça aidera à lâcher prise. Ou si pour la personne en face, c'est elle est à l'aise, bah elle pourra justement participer au fait de créer un cadre de lâcher prise et de un peu te guider vers quelque chose qui te mettra à l'aise pour vivre pleinement ton rapport avec la personne dont tu es amoureux ou amoureuse. Voilà. Mais elle est très intéressante cette question et pour le coup, je me suis sentie quand même très concernée par ça puisque même au-delà de Ken, moi je sens que tout est beaucoup plus compliqué quand j'ai des sentiments pour une personne, bizarrement. J'ai plus de mal à communiquer, j'ai plus de mal à dire ce que je veux, j'ai plus de mal à m'exprimer. Enfin, de manière générale, je sens que y a un filtre qui se met parce que j'ai vraiment envie de plaire à la personne et forcément, bah, ça change presque un peu qui je suis, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, je l'explique comme ça, en tout cas. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est d'autres raisons, complètement d'autres raisons, mais je pense que ça peut être un élément qui explique ça. Une autre question, comment retrouver une sexualité cool et saine après des expériences compliquées ? Ça me tenait à cœur d'y répondre à cette question. C'est une question que j'ai beaucoup sur Instagram, de manière générale, de personnes qui ont subi des violences sexistes et sexuelles, qui veulent retrouver une sexualité épanouie. Ce qui est totalement légitime, évidemment. Et la raison pour laquelle je n'ai jamais vraiment répondu à cette question, c'est parce que je pense qu'Instagram n'est pas du tout la plateforme appropriée pour y répondre, sachant que c'est du cas par cas. Et que si je donne une notice à IKEA de comment retrouver une sexualité épanouie après des violences ou des traumas vécus, tu peux retraumatiser une personne, tout simplement. Donc si des gens vous donnent des conseils sur comment revivre une sexualité épanouie après des violences, et que tu dis étape 1, étape 2, étape 3, faites attention s'il vous plaît. La première étape, c'est juste déjà retrouver de la sécurité dans son corps. Et ça, personne d'autre que toi ne peut savoir comment le faire. Donc, bon, finalement, je vais quand même te donner des guidelines. Donc voilà. Mais toutes ces guidelines, elles ont la même particularité. C'est que ça va être à toi d'aller chercher ça en toi, avec toi, pour toi. Et moi, je vais pas pouvoir te dire, pour retrouver une sexualité épanouie après un rapport, utilise un sextoy. J'en sais rien. Mais peut-être que je vais te dire, teste différents types de stimulation pour voir laquelle te met le plus à l'aise. Donc peut-être les sextoys. Donc pour répondre à ça, déjà le fait de juste être à l'aise avec le fait que tu veuilles revivre une sexualité épanouie, c'est déjà un truc qui est hyper important. T'es pas du tout obligé, voilà. Si jamais une personne se reconnaît qu'elle a vécu ça et qu'elle a pas du tout envie d'une sexualité, de s'investir dans sa sexualité, tu n'es pas obligé. Mais si tu as envie parce que tu le mérites et que même si quelqu'un a à un moment fait quelque chose qui t'a fait du mal, ça veut pas dire que c'est une fatalité et que tu pourras plus jamais retrouver du plaisir. Donc déjà, juste, je pense, accepter le fait que tu veux une sexualité épanouissante, après ça, je pense que ça peut être quelque chose qui est difficile, puisqu'on a un peu une espèce de... Enfin, moi, j'ai pu ressentir ça de... Mais je suis souillée, on m'a fait quelque chose, je ne mérite pas, c'est pas normal qu'après une expérience comme ça, je souhaite retrouver du plaisir dans cette partie-là de ma vie. Si, t'as le droit. Encore une fois, là, cette expérience, c'était un moment T, ça ne définit pas ta personne ni ce que tu souhaites ou ce que tu mérites. Voilà, donc ça, c'est juste déjà être à l'aise avec cette idée. Je dirais ne pas hésiter à en parler à quelqu'un si t'as la possibilité, si t'as accès à des thérapeutes, des sexothérapeutes ou des sexologues ou des thérapeutes tout court. Si tu as accès à ça, c'est top. C'est pas une obligation dans le sens où c'est pas forcément accessible à tout le monde en termes d'argent ou de disponibilité ou de quoi que ce soit. Mais si tu peux, c'est top d'être accompagné dans cette étape. Ça te permettra d'avoir quelqu'un qui juste accueille tes réflexions, accueille tes peurs, accueille tes questions, enfin tout ce que tu veux. Et la sexualité, même si elle est en solo ou même si elle est dans l'intimité, c'est quelque chose qui peut se partager avec des gens. Justement, par rapport à la première question qui était pourquoi ça fait plus peur à quelqu'un qu'on aime, le fait d'avoir un ou une inconnue, un thérapeute qui répond à des questions qui sont profondément intimes sans enjeu de quoi que ce soit, de plaisir ou de connexion ou de quoi que ce soit, ça peut aussi aider de se dire que tu portes pas entièrement ta guérison et ton accès à un plaisir sexuel intense, surtout après un événement pareil. Donc ça peut aider de décharger un petit peu tout ce qu'on pense et tout ce qu'on ressent par rapport à la sexualité. C'est un sujet qui est compliqué, donc n'hésite pas. Et si c'est pas un ou une thérapeute, c'est peut-être des gens autour de toi qui sont assez safe pour en discuter et rentrer dans des détails plus ou moins comme t'en as envie. Mais en tout cas, je pense que commencer par cette étape aussi, ça peut vraiment aider à commencer ce chemin avec les bonnes chaussures, quoi. Tu vois, tu vas faire ta rando avec des bonnes chaussures de rando, c'est mieux que si t'allais faire ta rando pieds nus, quoi. Donc voilà. Est-ce que je viens de comparer des thérapeutes à des chaussures de rando? Oui, complètement. Voilà. Sinon, ce que je dirais, du coup, la première étape pour entrer dans quelque chose d'un peu plus concret, c'est retrouver de la sécurité dans son corps. Je pense que quand on vit des violences sexuelles, enfin, je pense pas. Voilà, je sais. Il y a ce sentiment que notre corps n'est plus un lieu de sécurité parce que bah, soit on a dit non et la personne n'a pas respecté, soit on n'a pas dit non parce que c'est compliqué, soit on n'a même pas eu l'occasion de dire non. Et il y a un peu un truc de mon corps n'est pas un endroit safe. Il m'a fait ressentir de la douleur à un moment, de la honte, de la culpabilité, ce que tu veux. Et du coup, déjà, le rapport à son corps est compliqué. Et retrouver de la sécurité dans son corps, pour moi, en tout cas, c'est passé par des étapes... des exercices vraiment de scan du corps et de toucher avec moi-même. L'idée, c'était de trouver une zone de mon corps. Donc, tu peux faire tout un scan du corps et de trouver une zone dans ton corps où tu te sens en sécurité, où tu te sens à l'aise, mais vraiment dans une sorte de ressenti. Moi, alors, c'est ma poitrine. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que tout ce que ça induit dans l'imagerie de ce que c'est une poitrine, je pense que c'est ça. Mais c'est vraiment une partie du corps où je trouve c'est confortable, c'est doudou, c'est petit cocon. Donc ça peut être ça, mais ça peut être tes joues, ça peut être ton front, ça peut être ton ongle de ton orteil gauche, on s'en fout, tu vois. Mais est-ce qu'il y a une zone de ton corps où quand t'es dans un scan, tu sens que t'y es bien et que tu resterais bien concentré sur cette partie-là? Et une fois que t'as trouvé cette partie du corps, c'est vraiment ne pas hésiter à passer du temps avec et à que ce soit à masser, à toucher, à regarder, à ressentir. Et ça, je trouve que déjà, ça permet de si jamais il y a des flashbacks, si jamais il y a des moments de stress par rapport à ça qui reviennent, tu peux respirer, te remettre et te reconnecter avec cette partie de ton corps et juste savoir que tu peux être en sécurité avec ton corps. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, ça va être retrouver une sécurité dans le plaisir. Il y a des personnes, quand elles vivent des violences, des VSS, qui peuvent avoir du plaisir, ressentir du plaisir, c'est possible. Il y a des personnes qui ont des orgasmes durant des viols. C'est des réactions complètement mécaniques du corps qui, c'est un peu un mécanisme de défense ou juste un truc très mécanique. On stimule un endroit, ça crée des réactions réflexes, en fait. C'est comme si, en fait, on tapait sur le... Quand le médecin te tape sur le genou, tu lui mets pas un coup de pied parce que t'as envie de lui mettre un coup de pied. Voilà, bon, bah là, c'est à peu près la même chose. Et du coup, il y a un peu ce truc par rapport au plaisir où il y a une culpabilité, tu ne comprends pas pourquoi en fait t'as ressenti du plaisir. Et si c'est pas le cas, si t'as pas ressenti de plaisir, bah du coup ça peut un peu te dégoûter de te dire super, je vais prendre du plaisir par quelque chose qui a été douloureux à un moment ou qu'on m'a volé ou qu'on m'a imposé. Donc retrouver du plaisir, et ça pour moi c'est quelque chose que tu fais au quotidien dans ta vie et pas seulement dans ta sexualité. Moi ça a commencé par juste accepter le plaisir de manière générale, donc le plaisir quand je mange quelque chose, le plaisir quand je suis avec des potes, le plaisir quand je rigole, le plaisir quand je vais dehors et que je regarde la lumière dans les arbres qui est trop belle, enfin bref, vraiment faire du plaisir quelque chose dont je peux me nourrir et que je décide aussi à ce moment-là et qui n'est pas forcément corporel, forcément charnel directement. Ça a été un game changer pour moi. J'ai vraiment redécouvert mon corps d'une autre manière et à ce moment-là, je me suis dit, c'est safe. Le plaisir peut être aussi sécurisant, sécurisé pour après aller doucement vers un plaisir sexuel au niveau de tes organes ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est une étape que je propose. De tout ça, j'en parle dans j'ai un workshop qui s'appelle Développer son potentiel orgasmique. Et j'ai parlé avec des thérapeutes qui l'ont regardé et qui m'ont dit que ça pouvait être très bien pour ce genre de situation. Donc voilà, cultiver ses plaisirs, son plaisir de manière générale, lui faire de la place. Donc ne pas hésiter à remarquer tous les moments où tu te sens bien dans ton corps et que ça te fait du bien et surtout te nourrir de ça et laisser toutes tes cellules infuser de tout ça. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est retrouver une sexualité solo qui fait du bien. Donc là, il y a mille manières de faire ça, que ce soit du coup avec des sextoys, avec des vidéos, avec des workshops, avec des guides audio, avec du porno érotique. Ça tombe bien. Est-ce que Merci Beaucoup fait tout ça? Oui, complètement. Donc tu peux retrouver une sexualité qui ressemble à tes désirs. Et ça va être aussi quelque chose, en fait, tout simplement définir quels sont tes désirs aujourd'hui, quelles sont tes limites, quelles sont tes peurs, quels sont tes blocages et construire par rapport à ça. T'es pas obligé de guérir tous tes blocages absolument. Tu peux aussi construire autour. Et quand tu l'auras envie, tu pourras peut-être adresser ça. Et ça, on le fait d'une manière en allant découvrir tous les univers érotiques qui existent et pas juste le porno hyper violent et mainstream qui existe, mais tout ce qui existe, donc que ce soit de la littérature, encore une fois de l'audio, mais en tout cas laisser la place à toutes les formes d'excitation qui peuvent exister et qui te fera encore une fois te sentir en sécurité. Et après, quand l'étape est de passer avec quelqu'un d'autre, on n'est pas obligé de communiquer à la personne qui nous est arrivée si on n'en a pas envie. Tu ne dois à personne le fait d'expliquer ça. Si tu préfères, ça peut être bien. Il faut savoir que par contre, tous les gens très peu de gens sont aussi formés à recevoir ce genre d'informations et à savoir y réagir. C'est quand même un gros sujet. La communication, c'est génial, mais savoir écouter et réagir, c'est encore autre chose. Donc voilà. Mais tu peux en informer la personne et lui expliquer en tout cas de quoi tu as besoin pour te sentir en sécurité. Peut-être que c'est du temps, peut-être que c'est de la douceur, peut-être que c'est te bander les yeux, peut-être que c'est j'en sais rien. Mais en tout cas, en construisant avec quelqu'un un espace de sécurité, mais qui se matérialise physiquement. Comment est-ce que la sécurité se matérialise physiquement? Est-ce que c'est... Bon, alors du coup, c'est pas physique, mais si la personne te demande à chaque instant où est-ce qu'elle te touche, et quand elle te touche, tu lui dis oui ou non, j'aime bien. Est-ce que c'est, ok, on ferme la porte, on a au moins 5 heures d'affilée où je sais que je peux faire que ça, tu vois? Genre, comment est-ce que physiquement tu peux te sentir en sécurité avec cette personne? Et puis aller, voilà, prendre son temps. Donc... Il y a plein de choses à faire. J'espère que déjà ces pistes seront utiles. Mais en tout cas, ne pas hésiter à y aller à son rythme. C'est très important. Et voilà. Pourquoi je suis de moins en moins à l'aise à coucher avec de nouvelles personnes? C'est une très bonne question. C'est marrant. Toutes les questions que je lis, je me sens concernée d'une manière ou d'une autre. Peut-être parce que tu as l'air d'être une femme, en tout cas une personne assignée femme à la naissance. Peut-être parce que, avec toutes les expériences qu'on a de la sexualité et de notre vie en tant que femme, c'est un peu compliqué de faire confiance à des nouvelles personnes. Moi, je comprends, plus je vieillis, plus ma sexualité et devient... Enfin, de manière générale, je deviens plus exigeante et de moins en moins de gens me donnent envie. J'avais une sexualité à un moment qui pouvait être quelqu'un de nouveau tous les jours. Plus jamais, je suis capable de faire ça. Quand avant, j'avais juste besoin que la personne sente à peu près bon... Et face une blague et demie, ça me suffisait. Aujourd'hui, j'ai besoin de beaucoup plus que ça. Et c'est vraiment un enjeu qui n'est plus du tout le même aujourd'hui. Quand je couche avec quelqu'un, j'ai vraiment besoin de savoir que je vais me sentir bien de A à Z. Et du coup, ça, c'est plus difficile d'accès quand tu rencontres des nouvelles personnes. Donc peut-être que juste tu vieillis et que tes standards ont changé. Et bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Peut-être que juste dans ton expérience, tu as rencontré des gens et qui c'était pas ouf. Et du coup, bah, c'est dur de faire confiance et de se laisser ouvrir. Est-ce que c'est français, ça? Je ne sais pas. De s'ouvrir, en tout cas, à de nouvelles personnes. Maintenant, voilà, à toi de déterminer est-ce que c'est quelque chose qui te fait souffrir et t'aimerais pouvoir être plus à l'aise. Ou est-ce que finalement, c'est juste une réaction à quelque chose dont tu n'as pas le contrôle. Et bah, franchement, reste au calme avec toi-même et te force pas, tu vois. Enfin, vraiment, je dis ça, hein, je compatis complètement à la situation, hein, c'est pareil. Mais vaut mieux être solo bien que d'essayer d'aller vers de nouvelles personnes et de pas être satisfait, surtout à ce niveau-là de sa vie. Je pense que la sexualité, c'est quand même... l'accès à notre corps, c'est quand même quelque chose de très particulier. Donc voilà, on va passer à une autre question. Ta-ta-ta. Celle-là, je l'aime bien. On est d'accord, la taille, ça compte, non? Oui, la taille, ça compte, mais pas comme vous le pensez. Vraiment, ça, c'est un truc dont je parle beaucoup. Les trop grosses bites, les amis, c'est pas agréable, disons-le. Il faut arrêter avec ce mythe. Déjà, quand tu sais qu'un vagin, ça fait genre 14 cm, un truc comme ça, ça sert à rien d'avoir une bite plus grosse que ça. Ça l'ira, y a pas. Au bout d'un moment, ça bute. Il y a le col de l'utérus, tu ne peux pas aller plus loin. Honnêtement, plus j'ai eu d'expérience et plus je vieillis, plus je me rends compte que... Ouais, non, le fantasme là, de l'énorme tub, mais pas du tout. Déjà, ça peut faire mal. Enfin, ça va rentre pas partout très facilement. En termes de sensibilité, j'ai remarqué que c'était parfois, je fais une généralité là, mais on n'écoute pas ça. Mais j'ai eu remarqué que plus les bites étaient grosses, moins elles étaient sensibles. Donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était lié à la manière dont la personne se masturbait. Mais donc ça compte dans le sens où oui, si c'est inconfortable, évidemment que ça compte. Et perso, juste après. D'expérience, j'ai eu l'impression que les personnes qui avaient des gros sexes se reposaient un peu uniquement là-dessus. Bah c'est bon, ça suffit, j'ai une grosse tub, donc du coup ça devrait te combler. Bah non, pas du tout mon ami en fait, encore une fois, si tout ne repose pas sur ta bite. Je me rappelle même que moi j'avais rencontré quelqu'un qui avait une bite énorme et qui ne voulait que je lui répète pendant le rapport. Alors elle est grosse, alors est-ce qu'elle est grosse? Putain, mais évidemment qu'elle est grosse, gars. On a les mêmes yeux, ça se voit qu'elle est énorme en fait. C'était un peu... Et du coup, ça n'a tourné que autour de son sexe. Donc écoute, je ne sais pas, quand toi tu disais la taille ça compte, je ne sais pas de quoi tu parlais, mais en tout cas, à mes yeux, faut arrêter avec ce mythe de la grosse bite. Franchement, tu peux toujours faire grossir, mettre plus de choses que faire rétrécir, tu ne peux pas. Donc moi je préfère une taille moyenne, tranquille, même petite, et me faire plaisir avec les doigts, les langues, les sextoys, tout ce qui existe, qu'un engin énorme qui a du mal à rentrer où que ce soit. Je ne sais pas si ça se dit où que ce soit. Donc voilà, mais elle m'a fait un peu rire cette question, mais je suis grave curieuse. que vous me disiez si ça compte ou pas, tout en restant respectueux des anatomies de chacun et chacune, hein, évidemment. Mais pour moi, en tout cas, on peut avoir des préférences, mais il faut qu'on arrête ce mythe de la grosse pizza. Arrêtons. Ça fait mal. C'est tout. On n'a pas envie d'avoir mal. Il faut du lube, il faut des capotes. Il faut aller chercher des capotes, là, hyper galère, là, aller chercher un magasin qui les fait, ces capotes. Voilà. OK. Il y a plusieurs personnes qui me demandent comment gérer la frustration quand notre partenaire n'a pas du tout d'envie. Et là, pareil, comment réussir à ne pas être frustré quand mon mec me dit non ? Grande différence de libido. Alors, comment est-ce qu'on gère la frustration ? J'avais une discussion avec Lélé qui avait dit peut-être voir le désir comme une émotion. Ça peut aider à changer toute sa perspective par rapport à ça, de se dire toute émotion passe. Le principe d'une émotion, c'est qu'elle passe. Je crois que il faudrait que j'aille vérifier ça, mais le cycle d'émotion, c'est 7 secondes, un truc comme ça. Physiologiquement, c'est 7 secondes. Et puis après, c'est toi, comment tu restes, tu ressasses l'émotion ou pas. Et donc, peut-être accepter que le désir, c'est une émotion et que ça va passer au bout d'un moment. Il faut juste se donner l'espace pour que ce soit le cas et laisser la frustration, peut-être la verbaliser, peut-être, voilà. Mais en tout cas, elle peut passer. Il y a aussi... tout simplement la possibilité de se faire plaisir en solo. Il existe aujourd'hui plein de moyens de se faire kiffer, que ce soit avec des sextoys, avec du porno audio, encore une fois, ou tout ce qu'on veut. Et après, moi, ce que j'aime bien comme vision du truc, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser notre énergie sexuelle comme moteur, en fait. Donc, c'est utiliser, en fait, cette tension que ça crée dans le corps à d'autres fins. Ça peut être hyper cool. Va danser, va faire du sport, va créer, va écrire, je ne sais pas, mais je pense que cette énergie peut être motrice de quelque chose de différent. Et j'aime bien voir ça comme ça et de me dire que c'est quelque chose qui peut être redirigé et non pas accumulé, stocké, et après tu ranges ton frein et juste... Mais après, tout ça pour te dire, c'est OK de ressentir une frustration après quand une personne te dit non. Surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas couché ensemble et que voilà, t'as envie de cette connexion, t'as envie de ce rapport. Mais j'ai dit que on peut le communiquer d'une manière quand même bienveillante. Voilà, la personne n'a pas à non plus accueillir toute la frustration du monde. Elle peut l'accepter, mais souvent, dans les différences de libido, déjà, la personne qui dit non culpabilise. Donc, on va éviter non plus de lui faire porter le poids de la frustration. Et puis après, juste discuter en fait avec la personne de comment est-ce que vous pouvez trouver des solutions à ça ensemble. Moi, je sais que typiquement, dans les moments où j'avais pas une libido qui me donnait envie d'aller jusqu'à la pénétration, par exemple, peut-être que j'avais quand même assez d'envie pour masturber la personne. Bon, et bah du coup, il y a eu besoin de discussion à un moment pour juste recalibrer ça et se dire, à ce moment-là, j'ai envie juste de faire ça. Est-ce que ça te va ? Est-ce que t'en as envie ? Comme ça, il y a quand même un moment de connexion. Donc bon, là, masturber la personne, c'est quand même un acte très sexuel. Peut-être que ça peut être autre chose. Mais de voir, en fait, ce que ça veut dire une forte libido et une basse libido. Puisque parfois, quand on dit on n'a pas la même libido, c'est lui, il en a pas, elle en a pas, et moi, j'en ai beaucoup. Et il n'y a aucune nuance là-dedans. Donc comment est-ce qu'on peut trouver de la nuance dans vos libidos pour voir où est-ce que vous pouvez vous connecter. J'avais parlé de ça dans un autre podcast, c'était les paliers de la libido. Moi, ce que je fais, c'est que je parle d'un palier qui va de 0 à 10, 0 étant 0 libido, ne me touche pas, ne me parle même pas de cul, je ne connais même pas le cul d'ailleurs. 10 étant tu me touches, j'ai un orgasme. Si tu fais toutes les étapes, en fait, donc par exemple, si je suis à 2, je suis chaude qu'on me fasse des bisous dans le cou et que moi, je fasse des bisous dans le cou de quelqu'un, mais ça s'arrête là. 5, je suis chaude pour... masturber quelqu'un, mais j'ai pas envie qu'on me touche le sexe. On peut me toucher les seins et me faire du dirty talk, mais c'est tout. 9, tu regardes, tu me sautes dessus, tu vois. Quand tu remplis ça, tu vas pouvoir après voir justement toutes les nuances de ton ou ta partenaire et de voir où est-ce que vous pouvez vous retrouver. Et donc, si tu dis à ton partenaire, bah là, j'ai envie de sexe avec toi et qu'elle dit, bah là, je suis sur un 2, tu sais ce que ça veut dire. Toi et moi, je suis sur un 8, ok. Comment est-ce qu'on fait pour trouver quelque chose où tout le monde est respecté à ce moment-là? Évidemment, avant tout, on respecte que la personne n'a pas envie de sexe. C'est quand même ça qu'on respecte le plus. Mais peut-être que l'intimité peut se construire autrement à ce moment-là qu'un rapport pénétratif, par exemple. Je pense qu'aussi, revoir aussi sa définition de ce que c'est un moment sexuel et la sexualité, ça peut être cool. Et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres moyens de partager un moment charnel autre que par le cul, comme on l'entend. Peut-être que... je sais pas, ça peut être regarder un film ensemble, un porno ensemble, peut-être que ça peut être juste danser, en prendre un cours de danse ensemble, je dis n'importe quoi, tu vois, mais il y a peut-être moyen de connecter aussi. Est-ce que la frustration, c'est une frustration purement sexuelle ou est-ce que c'est une frustration de juste de connexion? Et par rapport à ça, ça peut être cool d'aller explorer comment est-ce qu'on peut vivre autrement son intimité avec son ou sa partenaire, quoi. Ok, on va passer à une autre question. Mon crush dure une heure. J'adore l'idée, mais comment ne pas avoir le vagin en feu ? Bon, ça soulève plusieurs questions, déjà, moi, quand je lis ça. Mon crush dure une heure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, j'entends, en tout cas, je traduis comme mon crush me pénètre pendant une heure d'affilée. A une érection et me pénètre pendant une heure d'affilée. Enfin, c'est ça que j'entends. Comment ne pas avoir le vagin en feu ? Une heure de pénétration d'affilée, c'est très, 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 très long, quand même. Juste ne pas faire une heure de pénétration, c'est pas parce que la personne dure une heure qu'il faut que le rapport sexuel dure autant. Une érection ne veut pas dire un rapport sexuel. Peut-être voir, en fait, quand il y a des personnes comme ça qui ont un pénis. Là, je prends complètement l'idée que la personne a un pénis. Si la personne dure longtemps et a du mal à atteindre l'orgasme ou l'éjaculation dans un rapport à deux, c'est peut-être que ses habitudes masturbatoires sont très intenses. Et du coup, quand t'es à deux, tu retrouves pas les mêmes sensations. Et du coup, tu dures. Il y a un peu ce mythe hein, que aussi pour être bon au cul, il faut durer 1000 ans et juste laminer la personne pendant 1000 ans. Jamais de la vie, personne ne kiffe se faire troncher pendant 60 minutes d'affilée. On est sensible, c'est très sensible, les muqueuses, vous savez. Mais ça sèche, donc voilà, il y a des micro-fissures qui se créent. Donc ne pas hésiter à juste questionner la personne sur voilà ses habitudes masturbatoires, voir comment tu peux intégrer ça. Moi, je sais que par exemple, je peux dire à la personne de se masturber, vu que... Enfin, de s'insturer avec moi, devant moi, je veux dire, pas genre on va te masturber, mais vu que la personne sait comment faire monter son plaisir rapidement, déjà ça peut aider, tu vois. Donc, en faire un jeu autour de ça, je sais que moi j'adore regarder les gens se masturber et en plus ça permet de faire monter le plaisir de ouf. Ne pas hésiter à utiliser éventuellement des sex toys, que ce soit une personne à pénis, une personne à vulve, tout le monde peut utiliser des sex toys et ça peut aider justement pour les gens qui ont une différence de montée de plaisir. Il y a des gens qui sont juste moins sensibles de manière générale et peut-être qu'avec un sextoy, ça va pouvoir venir équilibrer et le ou la faire venir plus vite et donc du coup passer peut-être un peu moins de temps. Et puis peut-être juste tout simplement, c'est pas grave, genre dire stop en fait, là c'était cool la pénétration, maintenant je n'en ai plus envie et viens on passe à autre chose en fait. Et peut-être que ce n'est pas que autour de ton sexe et que tu vas prendre ton plaisir autrement. Ne pas hésiter à utiliser du lubrifiant surtout si tu sais que la personne dure très longtemps. Mais encore une fois, ne pas partir du principe que parce que la personne dure une heure, a une érection pendant une heure, il faut qu'il y ait de la pénétration pendant une heure. Pas du tout. Donc voilà, ne pas hésiter à lui demander de se masturber de la manière dont elle en a l'habitude. Pourquoi pas intégrer des sextoys et puis voir si la personne... ça s'appelle le grip of death en anglais. C'est les gens qui ont l'habitude de serrer très 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 fort leur sexe quand ils ou elles se masturbent. Et en général, c'est couplé à du porno qui peut être de plus en plus hardcore. Et donc, du coup, on a besoin d'une imagerie très, très, très intense pour ressentir du plaisir. Si déjà, on se resensibilise à quelque chose de plus lent, à quelque chose de plus doux, ça peut aussi aider. Voilà. Je pense que déjà, c'est déjà pas mal comme petites étapes à mettre en place. Alors, on a une autre question. D'où nous viennent la plupart des injonctions morales à propos du cul ? Alors, les amis, on va passer 3 heures sur le sujet. Les injonctions et les... Alors, que ce soit les injonctions et les interdictions et tout ce qui s'ensuit, elles viennent de plein d'autorités, de figures d'autorités différentes. La première ayant été, je pense, la religion, qui a beaucoup dicté à un certain temps les manières de faire du sexe et surtout les manières de ne pas faire du sexe et les manières de ne pas désirer et surtout qui nous disait, enfin, à un moment très clairement de l'humanité, on te disait très clairement que le fait que tu aies du désir sexuel, ça pouvait suffire à t'envoyer en enfer. Donc déjà, quand juste quelque chose que tu ne contrôles pas qui est là peut te diriger vers ta damnation, oui, c'est normal qu'on intègre dans nos chairs que le sexe, c'est pas bien et que du coup, moralement, il faut s'en séparer, il faut faire attention. Donc voilà, l'Église catholique, en tout cas, à un moment, vraiment établi des règles, a sorti des cahiers des charges de comment on fait du cul et comment on n'en fait pas. Et clairement, à un moment, la sexualité, c'est égal à la reproduction, c'est la seule et unique raison pour laquelle on peut faire du cul. Mais d'une certaine manière, le dimanche, en pyjama, en missionnaire, avec la lumière éteinte, mille raisons, mille façons, en tout cas, de contrôler la sexualité. Et à ce moment-là, voilà, forcément, moi, j'imagine que quand une génération entière, enfin des générations entières, parce que là, je ne te parle pas de 10 ans, je te parle de centaines d'années, où on répète un message, où on ancre des comportements dans une société, c'est des choses qui se transmettent après, qui se transmettent par le silence, qui se transmettent par le manque d'information, qui se transmettent par, le transgénérationnel, c'est quelque chose qu'on commence à étudier, qu'on commence à comprendre. Et clairement, voilà, si ton ancêtre avait un rejet très fort de son désir parce que il pensait que ça pouvait l'envoyer en enfer, il ou elle a forcément éduqué ses enfants dans cette idéologie-là et vice-versa, et c'est quelque chose qui se transmet après. Et du coup, je pense que avec des idées se transmettent des comportements. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui a vraiment façonné la sexualité des gens pendant un moment et qui aujourd'hui a encore énormément d'impact. Tu vois, le concept de la virginité, c'est quelque chose qui est complètement... Bon, c'était l'église, mais c'était aussi surtout le capitalisme. Je sais pas si on pouvait parler de capitalisme à ce moment-là, mais le moment où on se sédentarise et qu'on possède des terres, la virginité à ce moment-là, c'était quelque chose d'utile pour pouvoir créer des alliances entre des familles, pour que, ok, ma fille est vierge, donc ce sera bien ta descendance, et ce sera bien donc tes terres qui seront données à ta descendance. C'était juste pour être sûr. Donc ça, typiquement, je sais pas si on peut appeler ça, c'est pas du capitalisme en tout cas, mais c'est du l'héritage, quoi, tu vois. À partir de ce moment où il y a l'idée de possession de terre ou de possession de manière générale, il y a des concepts aussi qui apparaissent comme ça. Donc il y a ça, et avec le temps, il y a aussi pour moi la qui va de pair d'ailleurs avec la religion, c'est les sciences, la médecine, qui va créer énormément de messages, d'injonctions, de peurs autour de la sexualité, puisque à une époque quand même, même si aujourd'hui on les sépare et on les met en opposition, à une époque la science était quand même hyper infusée de croyances religieuses, et on connaît un certain docteur Tissot qui a sorti un manuel qui t'explique pourquoi l'onanisme ou la masturbation peut te créer tous les maux de la terre. Donc entre la tu pouvais en devenir sourd, tu pouvais développer des pustules, tu pouvais même il y avait un truc, alors ça c'était un délire, j'ai entendu, je sais pas si c'était Tissot dans la religion qui disait les personnes à clitoris qui se masturbent, si tu te masturbes trop, ton clitoris va devenir un pénis et après tu iras violer des gens. Voilà, c'était ça leur explication. Donc on est d'accord, hein, ça n'existe pas, mais on voit d'où on vient quand même. Donc quand des médecins, des figures d'autorité qui sont des médecins, te disent la masturbation, ça va te rendre sourd, à ce moment-là, quand t'as zéro preuve, zéro moyen de prouver que c'est pas vrai, bah tu as peur, sachant que ce manuel a été édité 42 fois. Voilà. Donc c'est que il s'est beaucoup lu, il s'est beaucoup propagé, et ça va jusqu'à c'est quelque chose, là je te parle de quelque chose, Tissot, faudrait regarder, c'est dans les, je sais pas, 19e siècle peut-être ou 20e siècle, le créateur de Kellogg's, céréales Kellogg's, c'était un médecin qui pareil était fervent, alors du coup pas défenseur mais attaquant de la masturbation, et je sais pas c'est quoi le bail, mais il y a un bail avec les Kellogg's comme quoi les céréales Kellogg's c'était censé te limiter ta libido ou t'empêcher je ne sais plus trop quoi. Mais à quel point ça s'immisce en fait partout dans nos vies, et à quel point c'est encore récent. Aujourd'hui, typiquement, l'excision ou trucs comme ça, c'est aussi des choses qui peuvent être dites par des professionnels de santé et des autorités scientifiques dans d'autres pays. Pas du tout. Mais quand t'es pas armé avec les informations nécessaires, t'écoutes et tu intègres encore une fois des messages et donc des comportements. Et au-delà de ça, même, je pense, des réactions physiologiques. Si on te dit qu'il faut absolument pas se masturber, dès que tu vas ressentir du désir, tu vas couper ça complètement, et du coup peut-être que ton corps sera complètement soit ultra sensible au désir parce que tu vas t'en priver, soit au contraire complètement anesthésié. Donc voilà. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve après, pareil, quand la légalisation de la pilule, enfin en tout cas quand on a rendu accessible la pilule contraceptive, ça a donné tout un nouveau message à ce que c'est la sexualité. À un moment on a pu dire les femmes, les personnes qui ont une vulve, peuvent choisir une sexualité non reproductive. Bah ça a changé de ouf les comportements sexuels. Donc voilà, c'est aussi des autorités scientifiques qui modèlent beaucoup tout ça et qui nous impactent, puisque aujourd'hui on a besoin en fait tout simplement de figures d'autorité qui nous disent un peu comment les choses fonctionnent, et on a besoin de faire confiance. Mais du coup, tout ça s'est immiscé d'une certaine manière dans nos vies qui a fait qu'aujourd'hui on a des idées et des injonctions qui nous appartiennent pas. Tout ça a été en plus véhiculé par après nos parents qui nous ont éduqués avec tout ça, avec leurs propres croyances, avec leurs propres informations, avec leur propre rapport à la sexualité. Et du coup, toute cette tambouille, ça a créé des injonctions. Tu rajoutes après dans tout ça le capitalisme, on parlait tout à l'heure du capitalisme, qui utilise le sexe pour vendre tout et n'importe quoi, qui hypersexualise absolument tout, parce qu'on sait que la sexualité, ça déclenche des émotions fortes et des réactions fortes dans le corps, et donc du coup, c'est super pour vendre quelque chose ou faire désirer quelque chose. Bah, ça nous fuck le cerveau, ça nous nique le cerveau en fait. Et quand tu fais le chemin inverse de voir, ok, là pourquoi j'associe la sexualité avec ça, ok, c'est parce qu'on m'a fait croire toute ma vie que, je sais pas, genre il y avait un bail, un délire, un moment le rouge à lèvres, c'était les lèvres rouges, c'est pour les suceuses, je sais pas, moi j'avais entendu ce truc là, what the fuck. Bah, parce qu'il y a tout un truc autour du rouge à lèvres et tout ce qu'on a fait, je pense qu'il y a des images même, moi je me rappelle de c'est pour des ventes de fringues ou de peut-être de rouge à lèvres ou de parfum ou je sais pas quoi, où c'est une meuf qui est allongée au milieu de 15 mecs sur elle. Pourquoi on a besoin d'utiliser ce genre d'image pour vendre un parfum? Genre, aucun rapport. Donc voilà, donc tout ça, c'est des choses qui ne sont pas dites explicitement. C'est juste dit par des messages de « Non mais attends, par exemple, oh là là, elle était plus vierge, elle était pas vierge avant le mariage. » On te dit pas « Oui, la religion nous dit qu'il faut... » On te le prononce pas de cette manière. Donc du coup, c'est dur de juste comprendre que ça vient de là. Et après, ça induit énormément de choses. Enfin, moi, je suis persuadée que une des raisons pour laquelle autant de personnes galèrent à avoir des orgasmes, c'est parce qu'elles sont juste polluées, en fait, de tout ce genre de messages inconscients qui se traduisent par des sensations ou des non-sensations dans le corps. Voilà, si c'est un sujet qui t'intéresse, j'en parle en long, en large et en travers dans mon workshop en ligne « Développer son potentiel orgasmique ». Moi, c'est vraiment, ça a été la porte d'entrée, ces questionnements-là, vers ma découverte sur la sexualité. Et je trouve ça... hyper important de comprendre ce qui nous a conditionnés, comprendre les injonctions positives ou négatives qui existent par rapport à la sexualité et de choisir, en fait, tout simplement. Je pense qu'on sera toujours conditionné d'une certaine manière, on aura toujours des réflexes, on aura toujours des injonctions. Il y en a qui font peut-être plus de bien que d'autres, il y en a qu'on peut accepter de se dire « bon, bah, je fonctionne comme ça », il y en a qu'on a envie de déconstruire, on peut les déconstruire. Voilà. Aujourd'hui, il existe plein de ressources, plein de comptes, plein de choses qui permettent de se réapproprier une vision de la sexualité qui nous fait du bien, de nos désirs, et aussi le fait, je pense, de s'arrêter un petit moment, de relationner ou d'avoir des rapports sexuels, ça peut aider juste se poser et prendre du recul par rapport à ça et voir comment tout ça, ça a été construit. Mais voilà, encore une fois, mon workshop permet de se plonger un peu là-dedans, sachant que dedans, il y a des petits PDF avec justement plein de questions qui permettront de, comment dire, donner une direction, diriger la réflexion. J'ai beaucoup parlé hein, pour cette question, mais ça, c'est que ça m'intéresse. J'aime beaucoup cette question et surtout, enfin, quand tu creuses, en fait, tu ne t'arrêtes plus, mais ça fait un peu flipper, hein, d'ailleurs, quand tu creuses et que tu te rends compte, ah ouais, non, mais ça aussi, en fait, on m'a fait croire ça, alors que comment perfectionner une séance de phone sex? Peut-être déjà en commençant par sexter. Le phone sex, déjà, c'est quoi? C'est faire du sexe à travers son téléphone. Donc ça peut être pour moi les sextos, les appels. Quand tu mets ta cam, quoi, le FaceTime cul, tout ça, ça peut être du phone sex. Donc ça peut être que la voix, que l'image, ça peut être que l'écrit. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est quand même écrire, préparer les choses un peu à l'avance. Alors pas dans le sens où je crée un scénario qu'il faut le suivre, mais quand j'ai des idées, une petite idée par là, un truc qui m'excite, quelque chose que quelqu'un m'a dit, une idée de phrase, un truc, je la note quelque part. Et le fait d'y revenir et de construire autour de ça, ça me permet d'avoir quelque chose à quoi me raccrocher quand le moment arrive et d'avoir un peu des trucs qui me pop. Je trouve que c'est difficile dans le feu de l'action de se reposer juste sur sa créativité instantanée là tout de suite. Des fois, je sais pas quoi dire en fait. Mais le fait d'avoir écrit d'autres choses avant, de m'être fait une espèce de petite base de données de ce qui m'excite et de ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie d'entendre, ça me permet d'aller après, d'avoir plus d'idées. Et ne pas, en fait, je pense, hésiter à faire comme on pourrait faire dans un rapport charnel physique, c'est de créer toute une ambiance en fait qui va autour de ça. Comment est-ce que au travers le téléphone, tu peux aller titiller l'ouïe de la personne, aller titiller sa vue, aller titiller son toucher. Bon, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais tu peux lui donner une manière de se toucher, lui dire bah, « utilise cette chose-là pour te toucher, utilise cette chose-là ». Mais encore une fois, pensez au sens de la personne et que c'est pas parce que vous avez un téléphone qui vous sépare qu'il n'y a pas de réel et de matériel autour de la personne. Donc ça peut être quelque chose. Et sinon, ne pas hésiter à jouer avec tout ce qui est les gifs, les vidéos, les photos. Il y a plein de manières de s'amuser avec ça et de laisser la place à la suggestion. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et je pense, pareil comme un rapport, peut-être faire durer la chose. Surtout avec le phone sex, ce qui est cool, c'est que c'est quelque chose qui peut prendre de la durée sur un jour entier. Par exemple, on peut commencer le matin et s'appeler à la fin de la soirée et se filmer pendant qu'on est en train de se masturber l'un ou l'une devant l'autre. Donc, ne pas hésiter à faire monter la pression et à y aller crescendo pour que vraiment la personne en face soit dans un état de d'envie vraiment intense. Et voilà, je pense qu'en vrai, c'est quelque chose qui se perfectionne avec la pratique, hein, un peu comme beaucoup de choses, hein, j'ai envie de dire. Et peut-être débriefer. Hein, je pense qu'aussi, on ne parle pas trop d'aftercare et de débrief après du phone sex. Mais je pense que ça peut être très cool, en fait, de se dire, bah là, j'ai kiffé ça, là, moins. Là, j'étais à l'aise quand j'ai posé mon téléphone comme ça et que je me suis masturbée. Moi, j'étais pas du tout à l'aise. Je préfère quand c'est que la voix. Ça me permet d'imaginer. Ça me met mal à l'aise quand je fais ci, je fais ça. Bref, ne pas hésiter, encore une fois, à débriefer et à communiquer là-dessus pour savoir ce qu'on peut refaire ou ne pas refaire. Voilà, comme d'hab, il y a des règles qui sont le consentement avant tout. On commence pas, on n'initie pas du phone sex sans bien poser le cadre avec la personne avant et être sûr qu'elle est OK et dispo. Et puis voilà. Il y a plein de questions. La réconciliation par le sexe, l'orgasme prostatique, jusqu'où peut aller la soumission, parler de ses ex... J'avoue, j'ai pas fait ma petite sélection avant de faire cette vidéo, ce podcast, et du coup, je lis tout ce que vous avez... Mais tout est intéressant, en fait. Ok, penser à autre chose pendant le sexe, est-ce que c'est grave? Que faire pour rester focus? Alors, il y a deux questions en une. Est-ce que c'est grave? J'aurais tendance à dire que non, ce n'est pas grave, et qu'il y a plein de personnes pour qui c'est le cas, et que si c'est ça qui fait que tu prends du plaisir, j'ai pas envie de te dire d'arrêter, tu vois. Maintenant, peut-être que penser à autre chose, est-ce que c'est quelque chose, si tu poses cette question comme ça, est-ce que parce que tu sens que ça te déconnecte peut-être de ton ou ta partenaire à ce moment-là? Et si c'est ça que tu ressens et que tu as envie d'être plus connecté avec ton partenaire, il y a des moyens de plus être dans son corps et de plus rester dans ses sensations. Ça, pour moi, c'est un travail de manière générale de la vie de tous les jours et de pas juste dans les moments sexuels. De toute façon, si tu suis mon taf depuis un moment, tu sais que moi j'ai tendance à dire que la sexualité c'est quelque chose qui se pratique en dehors des moments sexuels, enfin qui se travaille en tout cas en dehors des moments sexuels. Et rester dans son corps et rester focus avec ses sensations, c'est quelque chose que tu peux faire dans la vie de tous les jours. Pareil, donc déjà tu peux aller peut-être du côté de juste te demander à quoi tu penses, est-ce que c'est toujours les mêmes choses? Et si c'est toujours les mêmes choses, peut-être comment s'est construit ce fantasme? Déjà ça peut être une première chose d'aller explorer ça. Et est-ce que ça a un rapport avec ce que tu consommes comme type de porno? Voilà. Je pense que le porno, c'est toujours une première chose à aller questionner quand on en consomme et de voir comment est-ce que ça influence notre sexualité. Soit bien ou en mal, on s'en fout. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui sont désensibilisées à, comme on disait tout à l'heure, des choses plus lentes et plus douces et plus réalistes, en fait, parce qu'il y a une consommation de porn juste qui s'est construite depuis longtemps. Toute la sexualité s'est construite sur du porno et qu'il y a un peu une escalade souvent de l'intensité dans le porno où quand tu t'habitues à un type d'image, tu as besoin de voir des choses un peu plus intenses, un peu plus intenses. Et donc du coup, juste ton univers visuel, sexuel est conditionné par ça. Et ça, donc du coup, ça peut être cool d'aller revoir un peu peut-être ta consommation de quel type de porno en tout cas tu consommes et peut-être utiliser soit d'autres plateforme, revenir peut-être à des choses avec des amateurs, peut-être stopper pendant un moment l'utilisation du porno, pourquoi pas regarder du porno avec quelqu'un pour que vous partagiez la même image à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, ça peut être une piste. Et pour ce qui est de vraiment changer ça, moi, tout ce qui est la question de comment être présente dans son corps, présent avec ses sensations, c'est beaucoup de choses en pleine conscience. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui aide avec ça. Et donc, la pleine conscience, ça se pratique de plein de manières différentes, que ce soit en faisant de la méditation, que ce soit en faisant de la dégustation de raisin en pleine conscience. J'ai déjà fait ça, moi. Déguster raisin en pleine conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit en faisant des exercices et tu restes concentré sur juste tes sensations. Moi, j'ai fait tout un travail de rééducation de mon attention où vraiment, je devais me concentrer. Donc, par exemple, tu te caresses un endroit du corps, tu passes par-ci, tu as une texture un peu différente, tu prends un petit plaid un peu doux. Enfin bref, tu passes du temps avec ton corps et tu dois vraiment mettre ton attention sur ce que tu es en train de sentir à ce moment-là, à quel endroit de ton corps tu le ressens. Ça a été un peu difficile à faire parce que ton esprit il a tendance à vagabonder ailleurs, parce que tu as envie d'intensité, tu as envie de rapidité, tu as envie d'un truc qui fait du bien, là, vite, fort, voilà. D'ailleurs, ça, c'est un autre sujet, je pense, le plaisir immédiat, mais je vais parler de ça après. Et donc, du coup, vraiment, de manière générale, se concentrer sur ses sensations. Tu peux faire un scan du corps et des sensations quand tu es dans le bus. Te dire, OK, là, le poids de mon corps, où est-ce que je le ressens? Est-ce que j'ai les jambes croisées? Est-ce que j'ai chaud à cet endroit-là? Est-ce que je suis inconfortable? Donc, vraiment, de manière générale, se concentrer sur comment tu te sens dans ton corps. Revenir au corps, en fait, c'est toujours quelque chose que je conseille pour avoir une sexualité plus en adéquation avec ce qu'on kiffe. Et du coup, cette histoire de plaisir immédiat et de plaisir... c'est quoi le contraire de plaisir immédiat? Plaisir prolongé? J'en ai aucune idée. C'est pas grave, tu t'as compris. Mais je pense que de manière générale, on a été habitué à avoir, on s'habitue, ou du moins à avoir ce qu'on veut très fort, très vite, et qu'on n'est plus sensible à des choses qui prennent plus de temps, à un désir qui monte plus doucement, à des sensations plus douces. Et ça, c'est aussi une rééducation à avoir de manière générale dans sa vie. C'est de se dire, OK, comment est-ce que je délai, j'ai le mot en anglais, mais j'ai pas le mot en français, délai. Comment on dit ? Je sais pas. Bah écoutez, voilà, vous avez compris. J'en sais rien. Je regarde mon chargé de prod, il me regarde, il dit, je sais pas. Et comment est-ce qu'on prend le temps de faire monter son plaisir ? Donc voilà, est-ce que ça peut être... Et ça, moi je dis ça, ça peut être arrêter d'acheter tout ce qu'on a besoin sur Amazon et sur Vinted et de recevoir tout dans les deux jours après. Parce que ça on s'habitue, on sait tous, c'est tout habitué à ça. Mais c'est pas normal, les amis, de recevoir tout ce qu'on veut en deux secondes et demie, de vouloir voir un film. Bim, t'as 172 000 films sur Internet, de vouloir manger une bouffe, je sais pas, de la bouffe thaï. Bim, tu vas sur Deliveroo, il y a toutes les 1000 restos thaï que tu peux trouver. C'est quelque chose à laquelle on s'est habitué très vite, mais qui, je pense, dans notre physiologie, n'est pas, nos corps et nos circuits de dopamine et nos circuits de récompense n'ont pas été formés pour ça, et on a un peu déréglé ça. Donc du coup, voilà, venir retravailler ça, la latence, c'est quelque chose qui est important et nécessaire, la répétition, et être OK avec ça, en fait. Donc ça peut être quelque chose que tu peux observer. Est-ce que dans ton quotidien, tu as accès à du plaisir très vite, très fort? Et si c'est le cas, comment est-ce que tu peux peut-être faire en sorte de prolonger ces moments et d'attendre un peu plus et de travailler un peu ta patience? Voilà. Encore une fois, là, je te réponds, j'ai une question de toi. Je n'ai pas d'autres informations sur toi, donc c'est une idée de ce que je me fais, de ce que j'interprète de ta question là en la lisant. Mais en tout cas, c'est moi les pistes que je pourrais conseiller et donner pour ce genre, voilà. Mais comme d'habitude, on n'hésite pas à en parler à son ou sa partenaire, en disant à la personne que... Il y a des gens qui peuvent se vexer quand on dit qu'on est en train de penser à autre chose. Donc accueillir que peut-être la personne peut se vexer. Mais je pense que l'honnêteté, ça va être important. Et que surtout, en fait, surtout dans les rapports à deux, on n'est pas obligé de régler tout de sa sexualité solo. À partir du moment où tu partages ces moments avec quelqu'un, la personne peut aussi t'aider à trouver autre chose dans ta sexualité. Même si c'est ta sexualité solo après, c'est OK d'en parler à la personne et de dire « OK, bah là, tu vois, je pense à quelque chose d'autre, ça m'embête, j'aimerais bien ne pas penser à autre chose ou avoir ces images. Viens, est-ce que la prochaine fois, tu peux, je sais pas, me parler tout le long du rapport parce que je sens que quand tu me parles, je reste plus concentrée. OK, bah viens, on s'entraîne à parler. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Qu'est-ce qui m'excite? Ah bah tiens, j'ai écrit des mots, tiens, ça m'excite. » Ne pas porter le poids de la guérison, de l'épanouissement de nos sexualités seules. Je pense que c'est très important. Et les gens peuvent avoir un rôle dans notre épanouissement et leur donner cette place. Je pense que ça peut être très chouette. Et voilà, en fait, à partir du moment où tu as une sexualité avec quelqu'un, c'est quand même un rapport qui est très intime. Donc, l'entraide l'entraide, c'est hyper important à ce moment-là. On est encore une fois des personnes, des créatures sociales. On a besoin des autres pour s'élever. Et je pense que c'est OK de demander à son ou sa partenaire de participer à l'exploration de sa sexualité. C'est même bien carrément de faire ça. Voilà. Il nous reste du temps pour une question. Il nous reste 5 minutes. Donc, on va essayer d'en trouver une. Doit-on être honnête sur le nombre de relations que l'on a eues avant son nouveau conjoint? J'ai envie de dire, ça dépend la raison pour laquelle le ou la conjointe pose la question. Si c'est par curiosité, de savoir ce que tu as pratiqué dans ta vie sexuelle avant, combien de personnes tu as connues, est-ce que tu es à l'aise avec ça, ce que tu as pu faire, et que c'est un partage pour après construire ensemble, pourquoi pas. Si c'est par jugement de valeur, en disant à partir du moment où tu dépasses un certain chiffre, je vais décréter que tu es une mauvaise personne. Voilà. Là, non, on n'est pas du tout obligé de le dire. On ne doit à rien ni personne notre nombre de partenaires. Ça ne concerne que nous. Donc, et ça ne veut surtout absolument rien dire sur notre sexualité. Moi, je pense que la seule situation dans laquelle je vais pouvoir demander, ça va être si je sais que la personne voit que je suis pas en couple avec et que la personne voit d'autres personnes. C'est important pour moi de savoir combien et c'est enfin pas dans le sens parce que si la personne on relationne, OK, je sais qu'elle est, on n'est pas ensemble, mais que dans sa vie elle a eu 3 partenaires et que de manière générale c'est quelqu'un qui a pas beaucoup de partenaires en même temps, voire un, OK, bah je sais que bon, a priori Au niveau des IST et des protections, ça va aller. Par contre, si je sais que la personne a beaucoup de partenaires, une personne qui a une vie, une activité sexuelle très active, là, je demande tout simplement parce que c'est ma santé, en fait, et que c'est important juste qu'on se protège et qu'on fasse attention. Mais voilà, je pense que c'est franchement pas une... Si c'est pour renforcer votre complicité et que vous allez pouvoir partager des anecdotes et des trucs cool, oui, ça peut être cool. Mais après, c'est pas du tout une obligation. Peut-être, demander à la personne d'abord pourquoi elle te pose cette question et après, tu verras si tu as envie d'y répondre. Voilà, c'était un premier épisode. Il y avait encore 1000 autres questions. Là, j'en ai choisi un peu celles qui me sautaient aux yeux. J'ai trouvé ça pas mal. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai fait un monologue, les amis, d'une heure. C'est formidable. C'était cool de pouvoir passer un peu plus de temps sur vos questions. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cet épisode vu qu'on teste, on sait que vous kiffez les autres, on le sait, vous nous le dites, mais c'est important de savoir si vous avez kiffé ça aussi. Ça nous permettra de savoir si on continue de le faire ou pas et du coup de vous laisser encore plus la parole pour poser des questions et après les faire apparaître autrement que sur Instagram. Voilà, j'espère que c'était cool et puis que tu vas passer une bonne fin de journée, une bonne journée si t'es si tu vas au taf, je sais pas où est-ce que t'es quand tu m'écoutes là-bas dans tout de suite, mais en tout cas je te souhaite une très bonne vie après ce podcast. La meuf est la pire pour les intros et les outros, je déteste ça. Voilà, de toute façon on se retrouve sur Insta à une soirée discutons sur un podcast, je n'en sais pas, mais on se retrouve quelque part forcément. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.
Merci pour ton écoute, j'espère que t'as autant kiffé que moi. Et si jamais toi aussi tu veux jouer au jeu, je te donne rendez-vous sur l'e-shop de la maison d'édition playgendergames.com ou alors on se retrouve sur Insta. À plus.